J'appelle pour bonjour à tous les auditeurs, bien sûr, et j'appelle pour rendre hommage à George Bush qui nous quitte, qui quitte ses fonctions le 20 janvier 2009. Et ben, j'aurais souhaité qu'il fasse un troisième mandat, car ça a été vraiment un président formidable. Hommage à lui.
Salut Daniel, Obama par-ci, Obama par-là, toute la journée on va nous bassiner avec Obama et les jours suivants. Remarque, ça fait du bien parce que pendant ce temps-là, on ne nous parle pas de Sarko. Donc c'est un sevrage qui n'est pas inutile. Bon, bah moi j'aurais tendance à souhaiter bonne chance à ce monsieur, même si on va déchanter très vite, je pense que la gueule de bois va arriver très rapidement. Mais il ne faudra pas oublier pendant ces 4 ans, quand on sera tous en train de s'énerver contre sa politique, que si ça avait été McCain, ça aurait été pire. Donc à chaque fois, il faudra se dire, on a de toute façon échappé au pire. Donc bonne chance monsieur Obama, et puis allez-y. Ah oui, je voulais rajouter juste une chose, qu'en tant que citoyen du monde, je serais pleinement heureux que lorsque monsieur George Bush sera traduit au tribunal international de La Haye contre, pour crime contre l'humanité, voilà, et emprisonné, ce qui n'arrivera jamais. Allez, salut.
Quand les foules s'amassent dans les pays arabes, c'est du fanatisme, et quand elles s'amassent aux USA, c'est de la ferveur populaire. Merci les médias français, dont font partie les lèche-bottes des antennes nationales. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Obama aussi, au passage. Grand libérateur du monde capitaliste. À bientôt, au revoir.
Je signale aux AMG que le 21 janvier prochain, comme chaque année, aura lieu à 19h30 un spectacle en solidarité avec les gardes frontières de Tsahal. Le lieu où se déroulera ce spectacle est gardé secret par les organisateurs, le Bataclan ayant refusé d'accueillir ce spectacle cette année. Nous avons appris seulement que c'est dans Paris. Seules les personnes qui auront acheté un billet à l'association Migdal, M-I-G-D-A-L, qui a un site internet, recevront un appel téléphonique à partir d'aujourd'hui qui leur indiquera le lieu exact du rendez-vous. Donc si nous sommes informés du rendez-vous, nous vous préviendrons. Voilà, c'était Michel. Au revoir et merci.
Salut à tous, c'est Fred des Yvelines. Merci beaucoup pour votre émission, là. Franchement, c'était super. C'était trop court, parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette histoire de musée du Quai Branly, sur ces histoires d'art premier, sur tout ce que ça implique comme débat. On pourrait en parler vraiment des heures. Moi, j'ai fait ethnologie, quoi, et j'ai toujours refusé d'aller dans ce musée, en fait, depuis qu'il a été créé. Voilà, pour notamment les, certaines raisons que vous avez évoquées. Voilà, juste, Daniel, tu as dit une petite erreur. Je voulais donc donner une pression technique. On peut tout à fait faire un marteau avec un crucifix. Il faut juste enrouler avec du scotch, du gros scotch d'électricien, on enroule le bas de la croix. Comme ça, on a une bonne prise en main bien ergonomique. Et à partir de là, bah franchement, ça marche tout seul. Hein. Voilà, sinon, c'était vraiment super. Merci beaucoup. Ciao.
Oui, j'adresse ce petit message aux gars pensés. Voilà les gars pensés, ben, rendez-vous samedi 24 janvier sur l'esplanade de la paix, donc à Gap, au campement de l'hôpital. Et oui, l'hôpital va dans la rue pour un petit peu expliquer aux citoyens tout ce qui se passe dans les hôpitaux au niveau national déjà, et puis à l'hôpital de Gap. Donc voilà, venez discuter avec nous, venez boire un peu de vin chaud avec nous, et puis voilà, que ça reste convivial et qu'on puisse échanger sur l'hôpital, parce que on est des soignants et vous êtes des patients, et voilà, on a besoin de vous. Merci.
Oui, salut Daniel, c'est une création de repères particuliers qu'on vous annonce, un repère itinérant, flottant et latino-américain. C'est pas parce qu'on voyage en globe-trotteur autour du monde sur des voiliers que l'on cesse de s'intéresser aux reculs sociaux et autres joyeusetés mises en place par nos gouvernements divers et variés. Nous restons des travailleurs. Sur nos petits voiliers, nous sommes nombreux, des francophones, québécois, suisses, belges, français et basques, à suivre les émissions de là-bas si j'y suis. Et c'est pas facile. On essaie de récupérer des téléchargements à l'occasion d'escales ou de visites à bord. Pour en revenir au repère flottant, il est actuellement au Panama, chez les Indiens Kuna. Alors rendez-vous les vendredis soirs à bord de Amuitz, contact Radio VHF Canal 16. On pourra écouter des émissions à bord et les échanger. Et merci à toute l'équipe, bonne continuation et bon vent. C'était José à bord de Amuitz.
Sympa, hein, cette histoire de repères flottants au bout du monde. Merci pour ce message, chers AMG, et tous les autres messages. Aujourd'hui, bah oui, c'est le grand jour. L'investiture, bien évidemment. On va, nous, en profiter pour faire deux choses. L'avis de Noam Chomsky. Chomsky a donné son avis sur ces élections, sur comment il voit ce nouveau président. Et cet entretien circule un peu sur le net et on l'a retraduite avec Guy. On va vous faire entendre des extraits, de larges extraits de cet entretien. Ça fait une petite dizaine de minutes. Et puis alors, vous savez, quand tout le monde a les yeux braqués dans la même direction, il n'est pas rare que les pickpockets en profitent pour vous faire les poches. Là, tout le monde est en train de regarder le pharaon, le dieu soleil, Obama. Et alors, pendant ce temps-là, on en profite par derrière pour faire des petites histoires, des petites cuisines et régler des affaires pas très fraîches. Ainsi, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'UIMM. Et oui, c'est le procès actuellement. Vous avez suivi peut-être un peu ça, je vais vous en reparler. Mais c'est notre sujet du jour. On va revenir sur cette histoire de l'UIMM, qui est quand même une histoire assez édifiante, qu'on vous avait racontée il y a déjà quelques mois. On va revenir là-dessus. C'est notre sujet du jour. Auparavant et tout de suite, quelques messages encore parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille, ici au 01 56 40 37 37.
Daniel, bonjour. Je voulais réagir à propos de l'émission d'aujourd'hui. Je partage tout à fait ton point de vue sur ce que tu disais à propos des classes sociales. Par exemple, dans le film de Jean Renoir, La Grande Illusion, le capitaine de Voile-Dieu, incarné par Pierre Fresnay, est plus en phase avec l'Allemand joué par Eric von Stroheim qu'avec ses propres compatriotes joués par Jean Gabin et Marcel Daliot. À propos du quai Branly, on dirait que chaque président veut laisser son empreinte culturelle. Pompidou a laissé le centre qui porte son nom, François Mitterrand a créé la très grande bibliothèque, la pyramide du Louvre et l'Arche de la Défense. Jacques Chirac a été inspirateur du musée du quai Branly, mais quelle déception, je partage avec vos deux invités. Cette immense rampe, qui me semble inaccessible pour les handicapés, les œuvres ne sont pas mises en valeur, le côté obscur qui ne donne pas un côté chaleureux, les explications de texte sont parfois courtes, bref, un musée qui manque d'âme, la grande place qu'il occupe à Paris me semble exagérée. Voilà, merci encore Daniel pour tes émissions, au revoir.
C'est pour signaler qu'Ataxuc 7 à Ganges projette le mercredi 21 au cinéma Arc-en-Ciel, à 20h30, Chomsky et compagnie, avec deux intervenants, un qui s'appelle Richard Abosit, qui est un syndicaliste, et un autre qui s'appelle Richard Grimman, qui est un des militants des Américains contre la guerre. Encore une fois, merci et, comme on dit, félicitations à toute l'équipe de là-bas, parce que vraiment, ça fait du bien d'avoir des gens qui sont un peu sur la planète. Et voilà, voilà. Bon, c'était Jean-Claude à l'Acadière, en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.
Bonjour les AMG, et encore une fois, le Café Repère de Savigny-sur-Orge, au 37 rue de la Liberté, à Savigny-sur-Orge, chez Tonton, aura lieu ce mercredi 21 janvier, à 20h30, et nous aborderons le thème de l'école en danger. Voilà. Donc, je ne fais pas plus long, et venez nombreux. Ciao, ciao.
Bonjour, Roland Caballero, CGT Sanofi Aventis de Colomiers. Donc, le site de Sanofi Aventis Colomiers est en grève totale toute la journée pour protester contre un projet de cession du groupe, de l'établissement, à un repreneur. Donc, tous les salariés contestent le bien fondé de ce projet. Nous pensons que ça s'inscrit uniquement dans la volonté politique du groupe de ne pas vouloir mettre en œuvre les moyens colossaux dont ils disposent pour assurer une croissance régulière aux produits que nous fabriquons sur ce site. Le groupe réalise des profits substantiels sur les vieux produits que nous fabriquons, mais il va en croître encore plus ses marges pour compenser les baisses sur les produits majeurs qui pourraient être génériqués, pour certains, dans les deux ans qui viennent. La seule solution proposée, c'est l'externalisation des formes liquides pâteuses de la branche OTC du groupe. Aujourd'hui, c'est en France, chez les façonniers, dont on connaît le moyen pour accroître leur rentabilité par la compression des coûts de main-d'œuvre, d'investissement, la dégradation des conditions de travail des salariés. Demain, ça sera dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. Nous exigeons de rester dans un groupe industriel qui a largement les moyens de pérenniser sa branche OTC, de continuer à fabriquer ses médicaments sur les usines en France. Nous exigeons que ce groupe conserve à ses salariés l'emploi et les statuts dignes de ce nom. Nous exigeons que Sanofi se comporte comme un véritable groupe industriel pharmaceutique, entreprenant et novateur au service de la santé et non pas comme une vulgaire holding financière pour laquelle l'essentiel serait la santé financière de ses actionnaires. Merci.
Bonjour Daniel et bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Et bonjour à tous les AMG, géniaux, ça j'en doute pas. Donc je viens vous annoncer le deuxième repère du Lot qui aura lieu à Cahors le jeudi 22 janvier à 20h30 au restaurant du Mont-Saint-Cyr. Donc pour vous dire aussi que le premier repère qu'on a réalisé au mois de décembre, il y avait une trentaine de personnes, ça s'est hyper bien passé, les gens avaient envie de se parler, de se rencontrer et surtout de se revoir. Donc on est très heureux de cette initiative. Merci, au revoir.
Salut Daniel, je suis la mère d'un des deux lycéens de Levallois qui vont être jugés jeudi. Parce que ça se passe comme ça à Levallois. Si tu as 17 ans, que tu milites pour le droit au logement, pour aider des familles à être logées et que tu veux assister au conseil municipal du maire, Patrick Balkany, qui refuse systématiquement de recevoir ton collectif, eh bien tu te retrouves vite fait au poste. C'est ce qui est arrivé à Baptiste et Vincent le 17 novembre dernier. Ils ont été placés en garde à vue et mis en examen pour résistance et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Pourtant, ils n'ont pas porté le moindre coup aux policiers. La garde à vue a été éprouvante, 49 heures de captivité, nourriture et hygiène déplorables, excréments dans les coins de la cellule, accès aux toilettes difficiles, lumière permanente, prise d'empreintes ADN, fouilles à nu, vexation, chantage, les pantalons sur les chevilles, menottes, et nous les parents mis sous pression, mystère entretenu quant à la gravité de la situation, comme s'il s'agissait de criminels qu'il fallait interroger longuement. Tout ça pour une convocation express au tribunal. Et notre avocat a reçu le dossier hier à 16h, hier lundi pour jeudi. Alors, avec le collectif de soutien, nous vous demandons d'aller sur le site baptistevincent.org, de signer la pétition massivement et de venir ce jeudi 22 janvier à partir de 9h devant le palais de justice de Nanterre pour les soutenir. baptistevincent.org, ils risquent gros, ils ont 17 ans. Merci à tous.
Allô, allô, et je l'ai vu, je vous dis que je l'ai vu. Voilà, ça s'est passé comment? J'étais à Montfort dans le Gers. Je mangeais au restaurant, et d'un seul coup, j'ai entendu une voix. Je lève la tête, et c'était le journal de TF1, celui qui commence à 13h. Et je l'ai vu, moi, je l'ai vu, et là, ça m'a fait un choc. Et là, je l'ai vu, on m'en parlait, on me disait, oui, il existe, bien sûr. Et là, il parlait. Alors, j'ai pas bien entendu ce qu'il disait. Mais je voyais, il était vivant, il bougeait les bras. Ça, c'est une bonne nouvelle, quoi. Et je trouve que Obama, il casse la baraque. Hein. Et oui, François Fillon. J'ai vu François Fillon. Ah, ça m'a fait quelque chose. Moi, ce type-là, le travailleur de l'ombre, qu'on sait qu'il est là, mais qu'on ne voit jamais, eh bien, je l'ai vu. Voilà. Puis alors, j'ai crié, il est vivant! Et il y a tout le monde dans le restaurant aussi qui s'est levé et qui a dit « Il est vivant !» Et on a vu un coup à la santé de François. Merci. À la prochaine. Au revoir. Il est vivant !
Alors, Chomsky, que dit Chomsky de cette élection au cours des débats qui suivent, les projections que nous animons les uns et les autres de l'équipe du film Chomsky et compagnie, régulièrement nous pose la question, mais là, est-ce que vous savez si Chomsky a voté et pour qui il a voté et quelle analyse fait-il de l'élection, évidemment, de Barack Obama? Alors, il y a un document qui circule actuellement sur Internet, que vous pouvez trouver sur lemonde.fr, et qui est, ben voilà, Chomsky donne son analyse. Alors, vous allez voir, le son n'est pas bon. On a refait la traduction avec Give, mais c'est quand même très, très intéressant pour fixer un peu les choses pour les auditeurs qui s'intéressent, comme nous, aux analyses de Noam Chomsky. Alors, première question qui a été posée, bien sûr, c'est avez-vous voté, Monsieur Chomsky, et pour qui ?
J'ai soutenu la campagne de Mabin comme étant le moins mauvais choix. Je n'ai pas écrit d'ailleurs à ce sujet. Mais quand on m'a demandé, j'ai dit que si les gens étaient dans un swing state, ils devaient voter contre McCain, car il est dangereux. Ça veut donc dire voter pour Obama. Mais pour ceux qui sont comme moi dans le Massachusetts, par exemple, là, ils peuvent voter comme bon leur semble. Et moi, par exemple, j'ai voté pour les Verts. Mais je pense que quand on y verra plus clair, Obama sera vu comme ce qu'il a toujours été, je pense, c'est-à-dire une sorte de démocrate centriste, un peu à la Clinton. Mais d'ailleurs, il n'a pas perdu temps pour envoyer un message très clair dans ce sens-là avec ceux qu'il a nommés à la tête de son administration. Par exemple, sa première nomination, c'est un choix très important, c'est Rahm Emanuel, qui est le secrétaire général de la Maison-Blanche. Lui vient d'une banque d'investissement, c'est-à-dire qu'il arrive tout droit de l'industrie qui a créé la crise actuelle. Chez les démocrates, il était l'un des plus fervents partisans de la guerre en Irak. Je crois même qu'il a été un des seuls membres de sa délégation du Congrès à voter pour la résolution de Bush qui lançait cette guerre. Et il est resté un faucon. Et puis aussi, c'est un vieil initié, un insider de toute la politique de Washington. Et c'est la même chose avec le vice-président, M. Biden, qui est aussi un faucon et qui est pour la guerre.
Alors, une autre chose importante, évidemment, qu'on a envie de savoir, c'est le point de vue de Chomsky sur le fait que les États-Unis ont élu un président noir. On se souvient que Chomsky avait dit « Obama ne sera pas élu, les Américains sont incapables de voter pour un président noir ». Sa réponse.
C'est quelque chose qui a une portée historique très importante. Quelqu'un qu'on dit noir, c'est-à-dire qui a au moins un parent noir, soit non seulement candidat, mais en plus élu président. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est de voir que dans la campagne démocrate, il y avait deux candidats, une femme et un noir. Ce qui aurait, il y a 40 ans de ça, était complètement inimaginable. Ce que ça nous dit sur notre pays, c'est qu'il est en train de devenir plus civilisé. Et il y a une raison à ça, et une raison qu'on ne mentionne pas. Cette raison, c'est l'activisme, l'engagement des années 60 et ses conséquences qui ont effectivement civilisé le pays. Mais la doxa officielle, c'est de dire qu'on est censé détester ces années 60, c'est ces activismes qui ont démocratisé le pays. Tout ce qu'on entend sur les 60s, c'était une période troublée, avec des gens cinglés qui vont à Woodstock. Mais par contre, ce qui s'est effectivement passé, c'est que ça a marqué le début du mouvement féministe, ça a lancé le mouvement écologiste, ça a lancé le mouvement pour les droits civiques, bien sûr. Et ça se revoit même dans la répartition par âge du vote. Beaucoup des jeunes ont voté pour Obama parce que ça fait partie de leur expérience, ça fait partie de leur vie quotidienne. Donc ça, c'est important. Et ça a beaucoup de sens. D'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer, écrivent tous que un tel vote n'est possible qu'aux États-Unis. Et moi, je pense que c'est un reflet, c'est un symptôme du racisme occidental. De telles élections ont lieu tout le temps dans le tiers-monde. Prenez par exemple le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud, la Bolivie. Là-bas, pour la première fois depuis 500 ans, la majorité indigène a élu quelqu'un qui venait de ses rangs, Evo Morales, à la tête du pays. Tout ça par l'une des populations les plus opprimées de tout l'hémisphère, c'est-à-dire ces indigènes. Mais est-ce que quelqu'un nous parle de ça? Quand on cherche une élection démocratique avec une importance, une portée historique, on ne se tourne pas spontanément vers le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud. Non, c'est quelque chose d'inimaginable en Occident où le racisme est bien trop profond. Ou alors, c'est qu'on a admis par avance que le tiers-monde est bien plus en avance sur nous.
Donc c'est pas la peine d'en parler. Prenez par exemple l'élection de Lula da Silva au Brésil. Il vient d'une paysannerie pauvre, il a travaillé dans des aciéries, il a été syndicaliste, il s'est fait une éducation politique. Et ça, en comparaison, c'est un événement qui a une portée bien plus importante. Et on pourrait faire la liste de beaucoup d'autres pays. Donc oui, cette élection est très importante et historique pour les États-Unis et pour l'Occident.
La rhétorique de Chomsky, c'est toujours de comparer. Et là, effectivement, en comparant avec d'autres élections à travers le monde, celle de Lula, celle de Evo Morales en Bolivie, on voit qu'il n'y a pas, c'est pas seulement aux États-Unis d'Amérique qu'on a été capable de faire un tel vote. Et puis hommage rendu aussi évidemment à tout le mouvement pour les luttes pour les droits civiques des années 60 qui ont conduit d'abord à l'abolition de l'apartheid aux États-Unis en 1964, il faut le rappeler, et à toutes ces émancipations dont effectivement l'émancipation des femmes aux États-Unis et aussi dans le monde, et à l'émancipation de la place des Noirs et des minorités aux États-Unis. Donc il s'agit de documents qui circulent sur Internet et que nous avons retraduits avec Guy et qui nous semble intéressant et judicieux d'entendre aujourd'hui la voix de Noam Chomsky.
Le fait qu'il y ait avoir une crise financière était évident depuis 30 ans. Car la libéralisation financière a pour conséquence de créer de plus en plus de crises, de plus en plus profondes. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde au cours des 30 dernières années. C'est ce qui arrive avec la libéralisation financière, et il y a des bonnes raisons connues à cela. Je veux dire que les marchés ont des défauts intrinsèques, qui ne sont pas pris en compte, mais qui ont des conséquences. Par exemple, si vous me vendez une voiture, on peut faire un bon marché, une bonne affaire pour toi et pour moi, mais ça ne va pas être bon pour tout le monde, parce que ça va faire plus de pollution, plus de circulation, que ça va faire monter les prix, mais tout ça n'est pas pris en compte. Et voilà un exemple des nombreux défauts qu'ont les marchés, mais qui peuvent être contrôlés par une régulation, par des lois. Avec les institutions financières, ce qu'on appelle le risque systémique est toujours sous-estimé. On ne prend pas en compte l'effet des pertes sur tout le système. Donc, il y a eu beaucoup plus de spéculation qu'on avait prévu. Il y a des très bonnes théories aujourd'hui, comme celle par exemple de Hyman Minsky, qui par exemple parle de comportement complètement irrationnel des spéculateurs. Quand le marché monte, ils surspéculent, et quand le marché baisse, ils le sous-investissent. Donc tout ça fait partie du système, tout ça est lié. Et toute cette libéralisation financière est venue à accompagner une espèce de croyance fanatique dans l'efficacité, l'efficience des marchés. L'autorégulation des marchés, qui a fait justement que toutes les politiques de régulation ont été démantelées, notamment par Bill Clinton et son administration. Et en fait, ceux qui ont mené cette politique de démantèlement des lois, de régulation, des réglementations, ben c'est ceux qu'on retrouve autour du secrétaire du Trésor qui a été nommé par Barack Obama. Donc il y avait une bulle spéculative sur l'immobilier qu'on ne pouvait pas rater. Les prix étaient beaucoup plus hauts, beaucoup trop hauts par rapport à la tendance, alors que toute la consommation était basée sur l'immobilier. Et les économistes ont parfaitement ignoré ce phénomène qui se prononçait. À part, bien sûr, un petit nom. Mais par exemple, Alan Greenspan, qui était le responsable de la réserve fédérale américaine, a déclaré qu'il n'y s'y connaissait pas assez en économie pour voir venir cette crise, ce crack.
Voilà quelques propos de Chomsky sur l'actualité aux États-Unis. Vous pouvez réécouter tout ça sur là-bas.org, où vous pouvez trouver facilement cette archive sur lemonde.fr. Alors, UMM, on a promis de se pencher sur l'UMM pendant que tout le monde regarde ce qui se passe à Washington, qui est très important bien évidemment, mais enfin quand même il y a eu un procès lundi qui n'est pas rien et qui ne peut pas nous laisser tout à fait indifférents. C'est le procès dans l'affaire de l'UI et même une audience exceptionnelle à la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris avec des grands personnages, des grands patrons et une histoire assez, assez édifiante pour avoir affirmé que Laurence Parisot était au courant de la caisse noire de la Fédération de la Métallurgie, l'ancien président de l'UIMM était assigné en diffamation par la patronne du MEDEF. Le procès donc s'est tenu lundi. Et c'est une affaire évidemment très intéressante. Vous vous en souvenez, Laurence Parisot se disait outrée, scandalisée. Elle affirmait ne rien avoir su des pratiques honteuses et arriérées de l'organisation la plus puissante au sein du MEDEF, c'est-à-dire l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, lorsque le scandale est apparu après le départ houleux, souvenez-vous, de Denis Gauthier-Sauvagnac, avec en poche une petite indemnité bien coquette d'1,5 million d'euros, et la révélation d'une caisse noire de 600 millions d'euros, vous souvenez ? Oui, il s'agissait de fluidifier les relations sociales avec ces 600 millions d'euros. Eh bien, le nouveau président, Frédéric de Saint-Jours, promettait plus de transparence. Alors, vous n'y comprenez pas forcément grand-chose, mais nous avons retracé l'histoire de l'UIMM. Mais c'est une histoire qui dure depuis 107 ans, figurez-vous. Et c'est quelque chose d'édifiant parce que ça structure, peut-on dire, notre histoire. Et oui, notre histoire de notre beau pays, notre histoire économique et notre histoire sociale. Donc aujourd'hui, l'UIMM, fluidifions, fluidifions, fluidifions.
Une caisse noire de plusieurs centaines de millions d'euros au sein de l'UIMM.
C'est aussi quelque chose que probablement beaucoup savaient inconsciemment.
À quoi servait cet argent ?
Dans l'après-midi, c'est Yvon Gattaz, ancien patron des patrons, qui affirmait
« Valise de billets pour acheter selon lui la paix sociale. Et il n'y a pas que les syndicats. Le monde politique aurait également profité des largesses des fédérations patronales. »
Au-dessus de tout soupçon, tout soupçon. Et je crois qu'il est temps que l'UIMM passe à autre chose.
L'enquête continue.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bassi, j'y suis avec Renaud Lambert. Fluidifions.
Flight number 2, arriving from...
L'Union des métiers de la métallurgie est en effet au cœur d'un scandale financier qui est unique par son ampleur dans l'histoire du syndicalisme. 19 millions d'euros distribués en liquide dont on ne sait toujours pas précisément à qui et pourquoi. Alors, le nouveau président, eh bien, il s'appelle Frédéric Saint-Jours, il vient d'être écarté de la direction générale de Peugeot et il arrive dans un très bon timing.
Écoutez, il y a eu l'UIMM avant M. Saint-Jours et il y aura l'UIMM avec M. Saint-Jours et après M. Saint-Jours. Donc aujourd'hui, il faut mettre en place, et c'est ce qu'il est en train de faire, de la transparence, de la modernité. Il est en train de revoir les statuts, il est en train de rentrer dans une logique qui est tout à fait celle que nous avons déjà mise en place depuis quelques années au sein du MEDEF, et c'est tant mieux. Nous voulons travailler avec tout le monde et on ne veut plus regarder ce qui s'est passé. On veut en revanche construire l'avenir et regarder résolument devant.
Voilà, il faut tourner la page, il faut regarder devant soi, de la transparence, de la modernité. Comment Laurence, notre Laurence, a découvert ça brusquement. Elle est atterrée, elle n'en peut plus, elle est tombée de l'armoire, Laurence, quand elle a entendu ça. Eh bien, ça ne marche pas. Et elle a du travail. Et les gens du MEDEF ont du travail. Et le nouveau patron de l'UIMM, M. Saint-Jours, a bien du boulot. Au moins à en croire un sondage, vous savez, le sondage publié dans le quotidien L'Humanité du 19 mars. Selon ce sondage, CSA, 59% des Français ne font confiance ni à l'organisation patronale, le MEDEF, ni au gouvernement pour que les relations sociales soient en France plus transparentes. 64% ne croient guère à la version du MEDEF, qui découvre soudain que depuis 30 ans, lui-même opérait des retraits en liquide pour fluidifier les relations sociales. Et en revanche, ils sont toujours ces sacrés Français, satanés Français, archaïques Français. Ils sont 55% à faire confiance aux organisations syndicales, des salariés, pour veiller à plus de transparence dans les relations sociales. Voilà pourquoi on est au MEDEF avec Renaud Lambert. Nous sommes toujours d'écouter de ceux qui ont des problèmes. Vous nous connaissez depuis des années. Quand quelqu'un comme Laurence Parisot et les gens du MEDEF sont en difficulté, ils peuvent compter sur là-bas si j'y suis. On va essayer de comprendre ce qui arrive à cette pauvre Laurence et à ces pauvres gens qui ont tellement de difficultés, eux qui découvrent soudain cette UIMM qui a été créée en 1901, donc ça fait 107 ans que ça dure. L'UIMM, c'est une fédération professionnelle qui regroupe les entreprises de la métallurgie, qui regroupe beaucoup d'entreprises, bien évidemment, beaucoup de fédérations professionnelles. Et sauf que cette organisation, qui est membre du MEDEF, est la plus puissante au sein du MEDEF. Aujourd'hui, c'est Frédéric Saint-Jour qui en est le président depuis le 20 décembre 2007. Il remplace qui donc Denis Gauthier-Sauvagnac, qui a démissionné le 23 octobre 2007 du poste de président, mais qui reste délégué général. Alors on va voir un peu quelle est l'histoire de cette UIMM aujourd'hui, qui a été créée en 1901 contre les syndicats ouvriers qui, alors, s'organisaient, et on va essayer de comprendre comment cette affaire, qui vous vous en souvenez quand même, a éclaté en septembre 2007, a permis de découvrir que depuis ces années dernières, depuis 2000, l'UIMM dispose d'une caisse anti-grève qui a été créée après 1972 exactement, et cette caisse anti-grève s'appelle EPIM, EPIM, Entraide Professionnelle des Métiers de la Métallurgie. De quoi s'agissait-il ? Eh bien, de protéger les pauvres patrons face aux nombreuses grèves qui sévissaient à cette époque-là. Et cette caisse a été approvisionnée par des cotisations patronales, par 1800 entreprises à l'époque qui avaient très peur de ces satanés grévistes. Mais sauf que ça s'est un peu calmé. Ces luttes se sont calmées avec le temps. Et avec le temps, eh bien, entre les cotisations et les indemnisations et les intérêts de ces fonds placés, aujourd'hui, le PIM et l'UIMM se retrouvent à la tête d'un petit magot de 600 millions dans les caisses. De ces 600 millions, monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac a fait certains dons à certaines personnes et ça a fini par intriguer un peu les autorités financières du pays. Ainsi, l'affaire a explosé en septembre 2007. Et depuis, eh bien, on suit passionnément ce feuilleton. On va essayer de se mettre au niveau et de comprendre comment tout cela a fonctionné, fonctionne. Et Laurence, on espère que ça va s'arrêter très bientôt.
Donnez-moi des grands vins et je monterai ma cave sur un tapis de guinque. Je me fais sur les caves roulant dans la farine. Pilier d'usine, je ruine les gagnes petits en bouffant de l'économie. Les salaires de la belle ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Pendant que l'ouvrier, lui, joue ses galons en 35 heures, moi j'ai brassé des millions, ça pique comme un baron de la République. C'est évident que je souffre de forte improbité chronique. Les salaires de la belle ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. les institutions qui m'éviteront d'aller traîner mon costard en zonzon serpent haut. Mille sonnettes, mon cœur est froid, mais ma tête bien droite sur mes épaulettes. Les salaires de la terre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Et qui je vais bien pouvoir me faire? Donnez-moi des grands vins, donnez-moi votre main, oui. Donnez-moi un coup de main, je vous le rendrai demain.
Madame Parizeau, quand est-ce que vous avez découvert ces pratiques?
Mais écoutez, moi j'ai découvert ces pratiques par l'article du Figaro. J'ai été alertée la veille de la publication de cet article par un journaliste la veille au soir qui m'a dit « Voilà ce qu'il va y avoir dans le Figaro en substance le lendemain ». Vous savez, il y a une chose que je trouve mais alors absolument désolante dans les comportements de ces messieurs. Ils sont censés représenter l'industrie. Moi je suis fille d'industriel, issue d'une grande famille d'industriels. J'ai moi-même dirigé une usine pendant un certain nombre d'années. Je trouve ça mais lamentable que l'industrie soit représentée par ces personnes-là. Et je crois qu'il est temps que l'UIMM passe à autre chose, clairement et nettement, et vienne au contraire avec moi fonder, construire le patronat du 21e siècle.
Est-ce qu'on n'a pas atteint ce soir un point de rupture?
Non, il est évident que je ne veux pas tomber de caribe en scylla. Nous avons eu déjà un certain nombre d'affaires. Je veux que les personnes qui représentent toutes les entreprises de France, dont des institutions paritaires, soient au-dessus de tout soupçon.
Alors, on se trouve avec Éric Decouty. Éric Decouty, vous êtes grand reporter à Marianne, mais il y a encore pas très longtemps, vous travaillez au Figaro, et la raison pour laquelle on est venu vous voir, c'est que cette affaire UIMM, ça commence un petit peu avec vous. C'est vous qui nous en avez parlé pour la première fois. C'était quand?
C'était le fin septembre 2007. Ça va avoir un retentissement absolument considérable parce que ça implique le pouvoir politique, ça implique le patronat, ça implique des tas de gens. On est dans l'aberration, c'est démocratiquement extrêmement grave. Ils ont une caisse qui s'appelle l'EPIM, qui est censée être une caisse anti-grève, pour faire court, où les membres de l'UIMM, les entreprises, les sociétés cotisent pour, en cas de pépin, une sorte de mutuelle. Caisse noire, parce que caisse noire au sens où elle n'est pas connue, elle n'est pas visible, elle n'apparaît pas dans les comptes et elle n'a probablement pas d'existence juridique. Donc on est dans l'occulte. Ils ont cette caisse noire et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que cette caisse noire est riche d'abord de 300 à 600 millions d'euros. Et on ne sait pas ce qu'ils en font. La seule chose qu'on sait de façon incontestée, c'est que depuis 2000, ils en ont tiré de cette caisse noire une vingtaine de petits millions, mais c'est quand même pas rien, et qu'ils les ont distribués. Que disent ou sous-entendent les dirigeants du patronat et de l'UIMM? Ils disent « on a fluidifié les relations sociales ». Alors, qu'est-ce qu'ils sous-entendent? Ils sous-entendent qu'ils ont arrosé les syndicats. Premier point. Deuxième point qui est soulevé par l'enquête, c'est qu'on suppose ou on soupçonne que des parlementaires ou des formations politiques ou des hommes politiques ont bénéficié du soutien financier totalement obscur, totalement opaque, totalement non déclaré de l'UIMM. Ce n'est qu'un soupçon, mais ce sont des soupçons forts. Alors, il faut s'arrêter une minute. Aujourd'hui, il me semble être fondamental qu'on ait la vérité, parce qu'on ne peut pas croire que notre démocratie est saine, si on a le soupçon que les accords sociaux sont corrompus par de l'argent liquide et que les textes parlementaires sont également corrompus.
Eh oui, voilà. Alors, évidemment, ce journaliste tout à fait héroïque, Éric Decouty, oublie quand même peut-être un peu d'indiquer que ça fait très longtemps qu'une certaine presse suit lui-même. Par exemple, en 1978, le Canard enchaîné publiait un bilan de l'aide apportée lors des législatives de 1973 par lui-même aux candidats qu'il avait envie de soutenir. Et ainsi, le Canard publiait un chiffre de 9 millions de journaux et revues, 2 millions d'affiches, 8 millions de tracts qui avaient été financés par l'UIMM. En fait, ça dure depuis 107 ans. Depuis 107 ans, l'UIMM est un groupe de pression, un lobby. C'est un mot qui s'emploie depuis peu en France, mais dont le système existe depuis très longtemps, en tout cas chez nous, qui est là pour influencer, et il faut bien employer le mot corruption. Éric de Couty continue de nous éclairer.
L'enquête va être ouverte et très vite, on va découvrir que c'est une vingtaine de millions d'euros que Denis Gauthier-Sauvagnac a retiré en liquide des comptes de l'Union patronale de la métallurgie et qu'il a distribué, on ne sait pas à qui. Sauf que la réalité est connue de longue date par, évidemment, les patrons, mais les politiques aussi. Qu'est-ce qu'on va, révéler en novembre 2007 ? C'est que Tracfin, c'est une cellule d'enquête du ministère des Finances qui est chargée de traquer le blanchiment. On va découvrir que Tracfin a été informé par la BNP des retraits en liquide de M. Denis Gauthier-Sauvagnac en mai 2004. Que le ministre des Finances de l'époque a été alerté quasiment aussitôt et que le ministre de l'époque, qui est Nicolas Sarkozy, a choisi d'enterrer le dossier. Que son successeur, il y a eu un intermède, mais pas sans son vrai, son successeur, qui est Thierry Breton, a été également informé et que le dossier a été enterré. Ce qui fait que de 2004 à 2007, les pouvoirs publics, en la personne de messieurs Sarkozy et Breton, ont été informés des opérations occultes de monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac et ils ont choisi délibérément de ne pas informer la justice. Donc ça, c'est la deuxième grosse révélation, c'est-à-dire qu'on a l'enquête sur les fonds, et ensuite, on a la démonstration que le pouvoir politique a délibérément choisi d'enterrer le dossier. Lui-même, c'est la première composante du MEDEF. Composante colossale, c'est toute la métallurgie au sens le plus large. Renault, Peugeot, tout ce qui a trait pour faire court à la tôle, d'une façon ou d'une autre, est présent dans l'UMM.
Et qui jouit d'un budget bien supérieur à celui du MEDEF.
Alors, ils jouissent d'un budget considérable, c'est les plus riches. Donc, le MEDEF sans l'UMM, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que se pose une autre question, c'est que à l'UMM, on sait que ces retraits sont effectués. Le pouvoir politique sait, on ne peut pas imaginer que le patronat, le CNPF, qui devient le MEDEF, ne soit pas au courant de ces opérations-là. Ça dépasse l'entendement. À l'époque, il y a Mme Parizeau qui dit, je crois que l'expression c'est « je suis tombé de l'armoire quand j'ai appris ça ». Franchement, c'est pas crédible. On n'a pas de preuve qu'ils savaient, mais comment est-ce qu'on peut imaginer que ces gens-là, qui sont des figures éminentes du patronat, que les patrons de, enfin les dirigeants successifs de la métallurgie étaient aussi les patrons du MEDEF, ça n'est pas sérieux. J'ai franchement beaucoup de mal à le croire. Et puis moi j'ai aussi du mal à imaginer que les ministres des Finances, que sont M. Sarkozy, que sont M. Breton, Mme Lagarde, dont on sait de façon absolument incontestable et incontestée qu'ils étaient informés depuis 2004, on a du mal à imaginer que ces personnes-là qui sont en lien direct avec les dirigeants du patronat n'en aient pas parlé. Faut être sérieux, ces gens se parlent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on n'est pas obligé de les croire, en tous les cas je ne les crois pas.
Ces révélations, ça me fait le même effet que ce qu'on appelle parfois les secrets de famille. C'est quelque chose que nous ignorions totalement. C'est aussi quelque chose que probablement beaucoup savaient inconsciemment. Donc nous l'ignorions pour l'UIMM et peut-être que nous sommes en train de l'ignorer pour d'autres. Je n'en sais rien.
Est-ce que vous avez vu l'exposition que nous avons fait des dessins d'enfants ?
Non, pas du tout.
Ah bah,
commençons par là alors peut-être.
Voilà. C'est quoi l'entreprise ici ?
Alors là on descend en escalier oui. Et il y a écrit en lettres roses et violettes, c'est quoi
voilà,
l'entreprise ?
C'est quoi l'entreprise ? Alors nous avons voulu afficher des dessins d'enfants qui ont été réalisés par une classe de 8 ans, je crois que c'était des enfants de 8 ans, et le sujet c'était qu'est-ce que c'est pour vous l'entreprise ?
Alors nous sommes dans le MEDEF national, dans le bâtiment qui se trouve avenue Bosquet. C'est vraiment un bâtiment qui est ouvert, c'est un bâtiment de rencontres, d'échanges, de débats. C'est vraiment un bâtiment qui vit.
Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît ?
Oui, je m'appelle Hélène Molinari, je suis directrice générale adjointe du MEDEF. Et donc, je travaille aux côtés de Laurence Parisot.
Alors, on est devant les dessins de ces enfants. Est-ce que vous pouvez m'en décrire qui retiennent votre attention ?
Alors, qu'est-ce que nous avons Ça, c'est une, visiblement, c'est une usine de pots de peinture. Donc, on a les jaunes, les bleus, les rouges, etc., avec un grand accueil. Donc, on voit que finalement, l'entreprise est plutôt accueillante pour cette personne-là. Et alors, visiblement, celui-ci est parti aux États-Unis parce qu'il a écrit USA, USA.
Oui, alors, on voit là, il y a un des dessins où on a une usine un petit peu... Ça fait un peu 19e siècle, là, oui. Une grosse usine avec des fumerolles. C'est une série de triangles avec une fumée et qui sort... Le slogan du MEDEF, c'est l'entreprise, c'est la vie.
Oui.
Et lorsqu'on voit cette usine, en effet, on se dit que le petit garçon, la petite fille qui a dessiné ça, il ne doit pas vraiment avoir envie d'aller à cet endroit-là.
Oui, je crois que ça symbolise encore peut-être un peu Zola dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et je crois que ça, c'est un problème typiquement franco-français. C'est-à-dire que la représentation de l'entreprise, pour certaines personnes en tous les cas, n'a pas évolué ou n'a pas suffisamment évolué. Et c'est justement tout le sens de l'engagement de Laurence Parisot, qui a mis au cœur de son mandat réconcilier les Français avec l'entreprise. C'est tout simplement pour qu'ils se rendent compte de qu'est-ce que c'est que l'entreprise. C'est pas forcément ces usines qui ont l'air d'être polluantes, qui représentent une caricature un peu passéiste de l'entreprise, mais il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui dans les services, et c'est vraiment un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où les gens peuvent s'épanouir, et on ne le sait pas suffisamment.
Bon, eh bien, on visite un petit peu, alors ?
Oui, on visite.
Et voilà, c'est chouette, non ? La transparence, les dessins d'enfants... Bah, bien sûr, il faut oublier toutes ces histoires, vous savez, du monde ouvrier, les Zola et tous ces passéistes. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est chouette, on peut s'y épanouir, c'est très sympa. Et c'est Laurence. Laurence, c'est une candide. Elle a, pour l'entreprise, les yeux de ses enfants. C'est dire qu'elle a été sa surprise en apprenant les malversations de ces messieurs, ces vieux messieurs, qui date justement de l'époque de la métallurgie, vous voyez, la métallurgie, la ferraille, enfin, toutes ces choses sombres avec des cheminées, des usines, avec tout ça est fini. Mais enfin, maintenant, ben, il reste à faire toute cette pédagogie et à faire comprendre tout ça aux Français. Et ce n'est pas un petit travail, oh non.
Alors, il y a un premier point, c'est comment est-ce qu'il était possible qu'au MEDEF, on ne soit pas au courant de la façon dont on procédait à l'UIMM. On sait que l'ancien président de l'UIMM, M. De Vavrin, a expliqué que selon lui, Mme Parisot savait, que ça a mené Mme Parisot à porter plainte pour diffamation. Éclairez-nous un petit peu sur cette opacité qui a subsisté encore pendant les trois premières années du mandat de Mme Parisot.
Bah écoutez, Laurence Parisot l'a expliqué à plusieurs reprises, les fédérations professionnelles, et l'UIMM est une fédération professionnelle et une grosse fédération professionnelle, ne sont pas des filiales du MEDEF, ce sont des adhérents du MEDEF. Donc nous n'avons pas la possibilité de savoir ce qu'il s'y passe, nous avons simplement la possibilité de travailler avec eux sur un certain nombre de sujets, notamment les sujets sociaux en ce qui concerne l'UIMM, mais le mode de fonctionnement, les finances de ces organismes nous sont totalement étrangers. Donc toutes les pratiques, je dirais, qu'il y a eu il y a quelques années, on pensait que c'était des choses qui étaient totalement finies, parce que le monde politique a fait sa révolution de ce point de vue-là. On pensait que tout avait été fait également...
On parlait du financement des partis politiques.
Exactement, hein. la clarification du financement des partis politiques. Donc c'est très difficile pour des personnes qui arrivent comme ça d'un monde économique normal, dans lequel nous avons des comptabilités très claires, très transparentes, de pouvoir imaginer que des systèmes comme ça pouvaient encore perdurer de nos jours en 2007, en 2008.
Mais enfin, pourtant, transparence, compte clair, la possibilité pour le MEDEF de jeter un œil sur les comptes de l'UIMM était déjà inscrite dans les statuts du MEDEF, si je ne me trompe pas.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, pas du tout. En revanche, c'est ce que nous avons fait maintenant, c'est-à-dire que depuis que cette affaire est sortie, l'une des premières décisions qu'a prise Laurence Parisot, c'est de modifier les statuts du MEDEF et de faire en sorte que tous les adhérents, maintenant, soient obligés de certifier leurs comptes pour pouvoir être adhérents. Donc, Donc c'est vrai pour l'ensemble des fédérations professionnelles, c'est vrai également pour l'ensemble des MEDEF territoriaux. Et donc l'UIMM est en train de se mettre également en conformité par rapport à cette nouvelle règle.
La transparence financière, nous la demandons pour toutes les organisations professionnelles et interprofessionnelles, ça va sans dire, pour toutes les organisations syndicales et pour toutes les ONG. C'est-à-dire que nous demandons la transparence financière pour tous ceux qui prétendent contribuer directement ou indirectement à l'élaboration de l'intérêt général.
Madame Parisot dit « beaucoup savaient inconsciemment ». Alors, il ne faut jamais oublier cette phrase. J'invite d'ailleurs de nombreux étudiants à se pencher sur le sujet pour faire des thèses sur le savoir inconscient collectif. Je crois que c'est un sujet d'étude qui mérite beaucoup d'approfondissement.
Pour moi, ça me fait l'effet de la révélation d'un secret de famille. Et donc, j'ai été d'abord en état de sidération par l'ampleur de ces choses et en même temps avec le sentiment qu'inconsciemment, il y avait peut-être quelque chose qui résonnait dans ce qui pouvait être dit ici ou là. Mais moi, je ne sais pas les choses. Quant à l'expression elle-même, elle me semble ubuesque. Un secret de famille. Je ne sais pas les choses. Inconsciemment, il y avait peut-être...
Sidéré, voilà. Sidérée, elle a été la candide Laurence, mais vous avez entendu quelqu'un ironiser, oui. Et celui qui ironise, c'est Gérard Filoche. Gérard Filoche, vous le connaissez, il est inspecteur du travail, militant syndical, et là, il vient de publier un livre qui s'intitule « Les caisses noires du patronat, l'argent sale de l'UIMM au MEDEF ».
Elle a dit « C'est un secret de famille honteux ». Et elle a dit « Je me sens sali ». Ça, c'était au tout début. Elle n'a pas fait beaucoup d'efforts pour se laver depuis 6 mois. À tel point qu'elle a dit « Oh, on va rétablir la transparence ». Mais moi, j'ai vérifié les statuts du MEDEF. La transparence y était déjà. C'est-à-dire depuis 3 ans que Mme Parisot était arrivée à la tête du MEDEF, les statuts prévoient qu'il doit y avoir une audition des comptes à partir des cotisations avant le 30 juin de chaque année. Qu'il doit y avoir un conseil financier du MEDEF qui vérifie les comptes de chaque fédération professionnelle et de chaque fédération territoriale. Et que ça se fait d'après les cotisations. Et que quand il y a un doute, c'est écrit noir sur blanc dans les statuts. Page 20, article 16, B et 17, C. Eh bien, quand il y a la commission de contrôle, c'est une commission de contrôle, elle peut examiner les comptes de la fédération s'il y a un souci. Et c'est le président qui doit avoir cette tâche de suivre la commission de contrôle financier. Donc, Mme Parisot, depuis 3 ans, elle est mouillée jusqu'au cou.
Ce que vous dites, c'est que si Mme Parisot avait lu les statuts, elle aurait demandé à l'UIMM de lui montrer ses comptes, c'est ça? Elle aurait dû le faire.
Bien entendu. Et de deux choses l'une. Soit cette femme est incompétente, et ne l'ayant pas fait, alors qu'elle avait l'obligation par ses statuts de le faire, c'est une faute professionnelle. Et donc ça concerne Mme Parisot, au premier chef, qui au lieu de la ramener sur tous les médias, devrait s'introspecter et voir sa responsabilité, de n'avoir pas assumé. Mais moi je ne crois même pas à cette hypothèse-là. Je ne pense pas que dans le petit milieu, qu'est Gauthier Sauvagnac, qu'est M. de Virville, qu'est M. de Calan, et Mme Parisot, je ne pense pas qu'il y ait d'ignorance. Je ne pense pas qu'elle ne savait pas. Qui peut croire qu'ils étaient et qu'elle était ignorante?
Un ancien président de l'UIMM, de Vavrin, a même dit qu'il était au courant d'une réunion entre Denis Gauthier-Sauvagnac et elle, c'était sur France Inter, expliquant que pour lui, elle mentait aussi.
Formel là-dessus, Denis Gauthier-Sauvagnac m'avait dit, longtemps avant les vacances, qu'il avait eu un entretien avec Mme Parisot et que ce sujet avait été évoqué et qu'il était... évident pour lui que Mme Parisot le savait.
Donc pour vous, Laurence Parisot ment?
Oui. Sur ce point précis, à mon avis, elle ne dit pas la vérité.
Eh oui, il est 16h et on continuera donc demain la suite de cette histoire passionnante. C'était un reportage de Renaud Lambert, Les caisses noires du patronat de Gérard Filoche. C'est aux éditions Jean-Claude Gavzevitch.
Quand les patrons s'organisent, de Daniel Fraboulet, c'est aux éditions Septentrion. L'interview de Noam Chomsky en début d'heure a été réalisée par Oriane Raffin, Anne-Lo Wischken et Bernard Monasterolo. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, ainsi que sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Jean-Noël Vélan et Anne-Laure Fauchet. C'est Coyen Guyen et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Quant à Agnès Lebot, chef du répondeur, elle attend vos messages au 01 56 40 37 37. Réclame.